Vous êtes sur RTL. 14h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Heureuse ainsi que toute l'équipe de vous retrouver pour une heure de conversation sur RTL. Cette équipe, si vous nous suivez d'ailleurs sur RTL.fr ou sur l'application RTL, vous la voyez œuvrer avec enthousiasme de 14h30 à 15h30 pour que nous puissions réfléchir ensemble sur des sujets qui vous interpellent. Alors merci à Seb, à Alexandra, à Céline, à Anthony et à Bastien pour leur professionnalisme joyeux. Le phénomène des Tanguis, malgré eux, au temps de la Covid, ces jeunes adultes qui retournent vivre chez leurs parents, c'était hier. C'était en direct et c'était très éclairant. Et c'est désormais en replay sur Radio Player France. Et de quoi parlons-nous aujourd'hui, ma bonne dame ? De notre cœur dont on nous dit qu'il ne peut être dédié qu'à un seul amour. La vie de couple repose sur un leurre, sur une agression. Il s'agit pour chacun des deux comparses de prendre possession de l'autre et de relever un défi. Comment le changer ? Comment le faire devenir moi ? A écrit Tahar Benjelloun. En France, 2 adultes sur 3 sont en couple et ce statut reste une norme encore très marquée et idéalisée. Mais sommes-nous vraiment faits pour être à deux ? Le couple est-il à réinventer, voire à remettre en question ? Sommes-nous vraiment monogames dans le fond ? On en parle dans un instant avec nos invités, mais pour l'heure, on accueille Sam sur cette antenne. Sam, bonjour.
Bonjour.
Soyez le bienvenu sur RTL, Sam. Merci d'être avec nous. Vous avez 38
merci
ans,
vous
habitez Lille. Et alors justement, selon vous, Sam, est-ce que l'on est fait pour s'aimer à deux ?
Alors, je pense qu'il y a autant de vérité que de personnes et que le polyamour peut correspondre à certaines personnes et le couple exclusif correspond à d'autres personnes. Je pense qu'il y a, comme dans la nature, une diversité de vérité, de réalité et qu'il n'y a pas une seule vérité possible. Après, si on parle vraiment juste au niveau biologie, je pense que non. Je pense qu'on peut, que nos hormones finissent par nous faire désirer d'autres personnes et que le fait que nous ayons plusieurs amis et non pas un seul ami, qu'on peut avoir plusieurs enfants et un amour pour plusieurs enfants et non pas un amour pour un seul enfant, démontre quand même une forme de réalité biologique concernant le polyamour. En quoi il serait plus logique d'avoir un seul amour et pas un seul ami, pas un seul enfant, pas enfin voilà.
Est-ce que vous avez toujours pensé de la sorte ou est-ce que ce sont les expériences, la vie ou les rencontres justement qui vous ont ouvert à cette façon d'être amoureux ?
Alors, j'ai fait quand même un petit bonhomme de chemin puisque j'étais très possessif avant et que j'ai toujours considéré que la monogamie n'était pas quelque chose de très naturel pour l'être humain, mais j'avais quand même besoin d'une exclusivité au niveau des sentiments avant. Et puis j'ai mis des années à comprendre que c'était une question d'ego, de possession, comme vous l'avez dit, je pense en introduction, c'est quand même posséder l'autre et puis vouloir absolument que le bonheur de l'autre passe par soi-même, alors que on peut très vite se rendre compte que le bonheur de l'autre passe par une multitude de facteurs et notamment plusieurs personnes. Donc c'est un travail sur soi, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas forcément accéder au couple polyamoureux, parce que c'est un travail de longue haleine sur soi, sur les dogmes sociaux, parce que effectivement la norme sociale c'est le couple exclusif, et quand on est en couple polyamoureux, c'est un peu comme pour les couples gays, comme pour les couples sans enfants ou les couples pas mariés, on a tendance à être considérés comme des faux couples, des couples qui s'amusent.
Anormaux ou qui ne rentrent pas dans la norme en tout cas.
Exactement. Ouais. Alors que c'est la même construction, la même difficulté de faire avec l'autre, de construire sur de l'amour, sur de la sincérité, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change sauf le nombre de partenaires possibles, et encore une fois, pas que de partenaires sexuels, mais de partenaires amoureux. Du coup, j'étais plus sur une question de couple libre aujourd'hui, vraiment. Je suis passé à autre chose et aujourd'hui je suis heureux pour ma compagne qu'elle puisse avoir plusieurs personnes qui lui apportent ce dont elle a besoin et ce que donc moi je ne peux pas lui apporter à 100% tout au long de ma vie.
Votre vie amoureuse aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle ? Vous nous parlez de votre compagne dont vous savez visiblement qu'elle vit des histoires parallèles à la vôtre.
Oui, effectivement.
D'accord. Donc c'est une sorte de contrat moral que vous avez passé l'un et l'autre, et vous avez choisi de pouvoir vivre votre histoire d'amour tout en vous réjouissant, ce qu'on appelle la compersion aussi.
Exactement.
Tout en vous réjouissant l'amour que l'un ou l'autre pourrait trouver dans les bras de quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire,
en fait, on s'est rencontrés il y a 5-6 ans. On travaillait ensemble, donc voilà, on est tous les deux comédiens, on travaillait sur une pièce de théâtre, on est tombés amoureux assez rapidement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je lui ai proposé tout de suite ma vision du couple, qui était une vision qui ne lui correspondait pas, mais à laquelle elle est venue pour presque ne pas me perdre ou me faire plaisir, et qui était donc une histoire de couple libre, puisqu'à l'époque, je voulais une exclusivité sentimentale.
D'accord.
Et puis, ça ne lui correspondait pas, parce qu'elle me disait que le sexe pour le sexe ne l'intéressait pas. Et donc, on a fini par se quitter au bout d'un an. Elle a rencontré un garçon, justement, parce que je l'ai poussé, moi, à aller voir ailleurs, justement, sexuellement, et un autre garçon lui a un peu retourné le cerveau, en quelque sorte, et elle est partie avec lui pendant 3-4 ans. Et ça s'est mal passé entre eux. Elle est revenue presque aussitôt à la fin de cette histoire vers moi. Et on a constaté au fur et à mesure, notamment surtout du confinement, qui nous a permis vraiment de nous remettre en question, et moi aussi d'ailleurs, que le couple qu'on avait créé ne nous correspondait pas. Elle avait besoin de plus. Et qui était donc le fait qu'elle a besoin de sexe, mais aussi d'être amoureuse de la personne, de découvrir
de
la personne. Elle a besoin de sentiments.
Bon, on va se retrouver dans un instant. Peut-être qu'on va vous rappeler aussi pour essayer de rétablir la ligne qui parfois est un petit peu capricieuse. Ce que vous nous dites, évidemment, nous intéresse. Sam, il en est une qui vous écoute, c'est Julie, qui ne partage pas forcément votre point de vue, et nos invités qui vont nous rejoindre. À tout de suite, Sam, sur l'antenne d'RTL. Nous sommes en direct.
La vie flamand sur RTL. La vie flamand sur RTL.
Jusqu'à 15h30.
Et son formidable album Aimé de Julien Doré. Alors, aujourd'hui, ça c'est marrant parce que effectivement, je viens de découvrir, si vous nous suivez sur RTL.fr, sur l'application RTL, qu'il est derrière moi deux flamants roses qui s'embrassent, parce qu'aujourd'hui, on se pose la question, sommes-nous faits pour être à deux? Est-ce qu'on est là pour aimer finalement une seule personne? Est-ce que notre cœur peut être dédié à plusieurs amours? Est-ce que l'on peut préférer aussi la solitude, hein, c'est la question que l'on se pose aujourd'hui jusqu'à 15h30. Est-ce que tout ça c'est culturel? Isabelle Taube nous rejoindra dans un instant, elle est journaliste à Psychologie Magazine, ainsi que nos invités Sophie Cadanen et Camille Saferis. Mais pour l'heure, nous sommes avec Sam. Sam, j'ai reçu un message sur nos réseaux sociaux de Mireille qui nous écrit sur Facebook. Bonjour Flavie. Non, avec du recul, je pense que l'humain n'est pas fait pour vivre à deux. Comment peut-on se promettre fidélité, amour? On ne connaît même pas l'avenir. Vous avez appris, je dirais, à réviser peut-être les contours finalement du couple au fur et à mesure de vos expériences, de vos appétences, et puis surtout j'ai le sentiment que vous vous êtes affranchi du modèle du couple tel qu'on peut l'entendre dans nos sociétés, qui est qu'on est dans un amour exclusif. Vous nous avez parlé de choses très différentes, c'est-à-dire que vous avez un temps voulu être en couple libre avec votre compagne, c'est-à-dire on s'aime mais tu peux par ailleurs avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes, et puis en fait vous avez accepter cette idée du sentiment. C'est quelque chose sur lequel vous venez vraiment d'insister, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous acceptez que votre compagne puisse être amoureuse d'un autre homme.
Oui, et même je l'accepte, et même j'épouse ça parce que ça me fait beaucoup de bien, parce que ça m'enlève une pression énorme et je la vois heureuse et épanouie, alors que je la voyais parfois malheureuse parce que j'étais pas assez présent ou pas assez à son goût. Je pouvais pas lui apporter tout ce qu'elle attendait, et aujourd'hui je la sens vraiment épanouie, heureuse, et surtout elle a compris et j'ai compris qu'elle n'était pas obligée de soustraire, c'est-à-dire d'enlever quelqu'un pour le remplacer par un autre. Mais elle pouvait additionner. Alors évidemment, dans une certaine mesure, mais en tous les cas, aujourd'hui, elle peut additionner les personnes qui vont lui apporter de l'amour, de la bienveillance. Enfin, voilà. Et alors qu'avant, elle avait tendance à avoir ce dogme social qu'on a, qui est si ça fonctionne pas sur quelque chose, eh ben on arrête et on le remplace. Alors que on peut construire toute une vie comme ça, en additionnant les gens au lieu de les soustraire et de les retirer parce qu'une partie ne fonctionne pas.
Donc vous avez accepté cette idée que vous pouvez ne pas suffire à son bonheur?
Oui.
D'accord.
Oui.
La réciproque est vraie?
Oui, aussi. Je crois qu'on a arrêté de s'idéaliser, même si je considère qu'elle est vraiment la femme idéale pour moi et que je pense qu'elle considère que je suis son homme idéal, parce que justement on accepte toutes ces choses-là de nous, de l'autre. Mais je ne peux pas, je sais que, et mais ça je le savais avant même d'être polyamoureux, je savais que je ne pouvais pas répondre à 100% de ses attentes et qu'elle ne pouvait pas répondre à 100% de mes attentes.
D'accord. Vous n'êtes, question basique, hein, pour des gens qui ne comprennent pas évidemment le polyamour, ou en tout cas qui ont du mal à l'envisager, vous n'êtes jamais jaloux ? Comment est-ce qu'on organise une vie de polyamoureux ?
Quand elle m'a quitté il y a 5-6 ans pour un autre garçon, justement, avec qui, du coup, pour le coup, elle avait eu un coup de cœur. Là, oui, j'ai eu le cœur brisé. J'ai pleuré pendant des heures face à elle. J'arrivais plus à respirer, donc j'ai cru que je pourrais plus vivre quasiment. Ouais. Puis j'ai mis en stand-by un peu ma vie sentimentale pendant le temps qu'elle faisait sa relation avec l'autre, même si je ne voulais plus entendre parler d'elle.
Mais là aujourd'hui.
Mais aujourd'hui, je ne suis plus jaloux parce que j'ai rencontré justement son autre amoureux qui est à Toulouse, qui s'appelle Clément. Et on s'est rencontrés dans un cadre, justement, avec un groupe. On n'était pas juste à trois, mais pour justement éviter, si ça se passe mal, on soit les uns sur les autres. Et ça s'est très, très bien passé, même de façon tellement idéale que les personnes qui étaient là avec nous et qui ne cautionnaient pas forcément le couple ou qui ne le comprenaient pas, nous ont dit tous que c'était d'une beauté à voir, une fluidité comme ça. J'étais heureux de les voir ensemble.
Alors, vous étiez heureux de les voir ensemble. Est-ce que vous les avez vraiment vus ensemble ou est-ce que...
Oui.
D'accord. Oui. Donc, en deux mots,
je les ai vraiment vus ensemble. C'est ce que je leur ai demandé. Je leur ai dit, si on se voit, je veux que vous agissiez comme si vous étiez un couple. Que vous agissiez comme un couple, en fait. On a même partagé une chambre à trois. Alors, il ne s'est rien passé de sexuel, évidemment. Mais on a partagé... Vraiment, on était un trio. Même si on n'est pas en couple, attention, ce n'est pas du tout la même chose.
Oui, j'entends.
Voilà. Mais je voulais vraiment me confronter à la réalité. Parce que, justement, c'est facile de prétendre être polyamoureux tant qu'on ne s'est pas confronté à la vérité de la chose. Et là, vraiment, je voulais me confronter à la réalité.
Mais quand vous étiez tous les trois, vous leur avez demandé donc d'agir naturellement. Est-ce que c'était vrai aussi pour vous vis-à-vis de votre compagne ?
Votre
compagne, en fait... Ah non, mais c'est chouette, dites-moi, là. Non, je rigole, mais ça veut dire que votre compagne...
Elle remercie un peu le ciel, même si on ne croit pas forcément en Dieu, mais en tous les cas, elle remercie le ciel de nous avoir tous les deux. Et elle, tous les jours, elle sait la chance qu'elle a justement de pouvoir voguer comme ça d'un univers à l'autre.
Alors. Bon, écoutez, je vais vous inviter à faire quelque chose, Sam. Parce que si vous savez vivre le polyamour, peut-être que vous pouvez faire le poirier dans votre salon pour essayer de choper le réseau. Parce que ce que vous nous dites est super intéressant, on a du mal à vous entendre.
Donc,
ne vous inquiétez pas, on va vous rappeler dans un instant. Il y a Julie qui va intervenir dans notre conversation et qui vous écoute, évidemment, avec beaucoup d'attention. On discutera tous ensemble. À tout de suite.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
11h30, 15h30.
On est fait pour s'entendre.
Avec Flavie Flamand sur RTL.
Alors, on est fait pour s'entendre, mais il est autant d'amoureux ou de façon de vivre l'amour qu'il est d'amoureux. Voilà, Sam, lui, il est polyamoureux parce qu'aujourd'hui, on s'interroge. Est-ce qu'on est vraiment fait pour être à deux, pour être en couple ? Et puis, on interroge évidemment cette vision normative du couple, celle de notre société. Sam, vous êtes toujours avec nous. Vous êtes heureux de voir votre compagne heureuse avec un autre compagnon qui habite Toulouse, pendant que vous êtes à Lille. Bon, alors c'est vrai que géographiquement, on ne fait pas une émission sur le polyamour, mais on le fera prochainement et peut-être que vous nous rappellerez pour nous expliquer un peu l'organisation. En tout cas, vous, votre cœur n'est pas exclusif et vous considérez que c'est le même cas pour votre compagne. Il en est une qui vous écoute avec beaucoup d'attention et peut-être aussi un peu de curiosité, curiosité saine, évidemment. C'est Julie. Bonjour Julie.
Bonjour Flavie.
Soyez
bonjour
la bienvenue. Je vous présente Sam.
Bonjour.
Voilà. Alors Julie, qu'est-ce que vous inspire cette façon de vivre l'amour de Sam ? Est-ce que vous pensez justement qu'on est fait pour être à deux ?
Déjà je vais dire waouh, parce que je pense que c'est une très jolie relation qu'ils vivent.
Ouais.
Et moi je suis très très ouverte. Je pense que chacun doit vivre son amour comme il le sent.
Ouais.
Après, moi je ne pourrais pas.
D'accord.
Pour l'instant en tout cas. J'ai une vision de l'amour qui a été modifiée parce que je suis passée par deux divorces et que maintenant je vis une relation un peu plus libre. Il y a plusieurs sens à la liberté du coup. Ma relation, je la trouve libérée.
Ouais.
Pas dans le même sens que Sam, mais voilà. Je ne pourrais pas, moi, partager en tout cas. mon amour avec deux personnes. Je pars du principe que j'ai du mal à me dire que voilà, je vais chercher quelque chose chez une personne, je vais chercher quelque chose chez une autre.
Ce n'est pas votre vision. Oui.
Voilà.
Je vous en prie, mais comme effectivement aujourd'hui notre émission est consacrée au fait de vivre à deux et est-ce qu'on est fait pour ça ? Vous-même, vous nous dites que dans votre parcours, vous avez vécu donc deux divorces, donc vous avez la vie d'une femme, je dirais, libre, voilà, une femme qui est restée, qui est repartie, qui s'est remariée, qui a redivorcé. Est-ce que avec justement ce parcours de vie, vous avez vu votre vision du couple modifiée ? Est-ce que vous pensez que dans la vie, on est fait pour être à deux ? Ou est-ce que finalement aussi, vous pouvez penser qu'on est fait pour être seul?
Alors, je pense que c'est vraiment propre à chacun.
Oui.
Pour mon cas, je pense qu'on peut être à deux. Mais après, c'est juste la manière dont on voit la relation.
C'est-à-dire
sur mes deux mariages précédents, sur mes relations précédentes, tant qu'il y avait de la même configuration, j'avais besoin d'être avec quelqu'un, j'avais besoin d'avoir des projets. Le mariage, puis les gens qui me disaient c'est pour quand le bébé, enfin voilà, toutes ces choses qui sont un peu dans la norme. J'étais plutôt dépendante de l'autre, comme dans les débuts de relations en fait, où on a tendance à idéaliser un petit peu, à dire oh là là, ça y est, c'est l'homme de ma vie. Donc voilà, j'étais un peu là-dedans et jusqu'à un moment, on déchante en fait. On se rend compte que la relation, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas forcément l'idéal, ce que nous, on a imaginé en tout cas. Et c'est ce que maintenant moi je recherche et ce que je retrouve dans la relation actuelle, c'est justement ce côté-là. C'est-à-dire que j'ai travaillé, après ma séparation, j'ai travaillé avec une psychothérapeute là-dessus, de me détacher de l'autre, de fonctionner pour moi. Et à partir de cette base-là, j'ai pu reconstruire quelque chose avec quelqu'un. Pour être bien, voilà, j'ai besoin d'avoir cette relation. Je sais qu'il est là, mais j'ai aussi
amoureuse, tout ce qu'il y a
autour. Ouais. J'ai aussi tout ce qu'il y a autour. Ma fille, j'ai une petite fille qui a 3 ans, j'ai mon boulot, j'ai mes loisirs propres à moi. J'ai besoin d'avoir cette liberté aussi.
Alors, c'est quand même un point commun que vous avez tous deux, c'est d'avoir bourlingué dans l'amour, parce que ça, c'est... Non, mais je trouve ça toujours très intéressant, la bourlingue, moi, mais parce que, justement, ça nous forme, ça nous permet de réfléchir, et que vous tenez, et l'un et l'autre, à une forme de liberté, c'est-à-dire que, Julie, la vision du couple telle que vous l'avez vécue ne vous correspond plus aujourd'hui. Donc, en fait, vous considérez aujourd'hui, Julie, qu'on est fait peut-être pour être amoureux, mais pas forcément pour... on est peut-être fait pour être à deux. En tout cas, c'est votre cas. Vous ne pourriez pas être à plusieurs, comme on peut l'imaginer dans la vie de Sam. Mais néanmoins, vous tenez à une certaine liberté. Vous faites rentrer la notion de liberté dans le couple tel que vous l'aviez imaginé peut-être plus jeune.
Oui, parce que je pense qu'on a besoin... De ça, en fait. On a besoin de notre petit... Notre part de liberté à nous, d'avoir nos loisirs indépendamment de l'autre.
Et la liberté d'être soi-même, peut-être, non ?
Oui, tout à fait. D'être soi-même, de... Et puis, chez l'autre, parce que du coup, j'écoutais un peu le témoignage de Sam, qui disait elle peut aller chercher ce qu'elle veut, en gros, chez chaque personne. Moi, je pars plutôt du principe que j'attends rien. Par exemple, avec mon conjoint actuel, j'attends rien de lui, je n'ai pas d'attente. Je le prends comme il est, je prends ce qu'il m'apporte. S'il y a des choses qui ne m'apportent pas et qui m'embêtent, on en parle. Si on peut arranger les choses, tant mieux. Si on ne peut pas, dans ce cas-là, peut-être que ça conduira à une fin de la relation.
Alors voilà, c'est ça. C'est ce que vous ne faites pas, Sam. C'est-à-dire que ce que vous nous expliquez, c'est que vous, c'est pour conserver la relation que vous estimez qu'à un moment donné...
Parce que moi, j'ai perdu ma copine pendant 3 ans et j'étais plus malheureux sans elle qu'avec elle. Et que même si elle ne répond pas à 100% de mes attentes, je préfère l'avoir dans ma vie. Et parce qu'elle est importante pour moi et je suis important pour elle, plutôt que de la zapper parce qu'effectivement elle ne va pas répondre à 100% de mes critères, parce qu'en fait je pense que personne ne peut répondre à 100% des critères de l'autre. En tous les cas, sur le long terme. Et que c'est pas parce que dans 10, 20 ans, mes attentes vont se modifier que cette personne va perdre, enfin, que je vais perdre moi l'amour que j'ai pour cette personne. Donc moi, je considère que je ne vais pas faire disparaître l'autre de ma vie juste parce qu'à un moment donné, elle correspond pas à 100% de ce que j'attends d'une personne. Même si on essaie de ne rien attendre de l'autre, on est un peu forcé par la société à attendre des choses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient des preuves d'amour, qu'elles soient... C'est compliqué de ne vraiment rien attendre de quelqu'un. C'est dans la société dans laquelle on vit. Mais même, on est formaté sur notre ego à ça. On attend de l'autre ce que nous-mêmes, on donne à l'autre. Donc, c'est compliqué d'avoir une relation totalement, presque de neutralité, où il n'y a pas d'attente. Où je pense que c'est compliqué de... Voilà.
Julie, le mot de la fin pour vous.
Je pense qu'il n'y a pas, justement... Enfin... Voilà, encore une fois, c'est un peu propre à chacun avec ses expériences, mais je pense qu'il n'y a pas... Moi, je sais que je n'ai pas de critères. Je prends la personne comme elle vient, je n'ai pas de critères, et si un jour il doit partir, bah, il partira. S'il pense que la relation dans laquelle on est ne lui convient plus, et ben, ça s'arrêtera. Je préfère poser les choses comme ça, et pour l'instant, ça fonctionne très très bien, et ça évoluera peut-être avec des projets et d'autres choses, mais pour l'instant, ça fonctionne comme ça.
Et bien,
voilà, il n'y a pas de critères.
En tout cas, on vous a entendu, et l'un et l'autre. Je vous remercie d'avoir témoigné sur cette antenne pendant cette première demi-heure. Sam, plein de bonheur pour vous, votre compagne et tout le monde. Julie, je vous souhaite le meilleur aussi. Je vous remercie d'être intervenu sur cette antenne. Il y a Olivier Bois qui vient d'arriver sur cette antenne. Il va nous présenter justement le Flash Info. J'ai l'impression que c'est du polyamour, le Flash Info, moi, ici, parce que vous êtes... Non, mais vous tournez les uns les autres, en fait. Et puis, on se retrouve juste après sur l'antenne d'RTL. Salut Julie, salut Sam.
Flavie Flamand sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL jusqu'à 15h30.
Sommes-nous faits pour être à deux? Nos invités dans ce studio aujourd'hui, Sophie Cadalène. Bonjour Sophie.
Bonjour Flavie.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes psychanalyste et écrivaine, auteur du livre Aimer sans mode d'emploi chez Erol. Bonjour Camille Saferis.
Bonjour.
Bah dites donc. Il y a un nouveau livre qui sort, dites-moi.
Eh oui.
L'homme d'une seule femme aux éditions Plume. Et ça raconte l'histoire?
Eh bien, c'est le roman du polyamour. Le
Mais
roman
c'est en fait,
vrai
on
du polyamour.
Le roman de Sam.
C'est le sous-titre. C'est absolument sidérant. J'écoutais Sam tout à l'heure et je me disais, mais alors Sam, je ne sais pas si vous écoutez encore, votre vie a été adaptée, en fait.
Exactement.
Votre vie a déjà été adaptée.
Voilà, dans un livre, L'homme d'une seule femme. Sophie Cadalène, avant d'accueillir Isabelle Taube du magazine Psychologie, vous avez entendu ces deux témoignages. Et c'est vrai, il avait raison, Sam, en début d'émission. Il est tout tant finalement de façon d'aimer qu'il est d'amoureux, même si on ne peut pas non plus ignorer cette norme du couple en France et dans le monde d'ailleurs.
Ah bah on peut certainement pas ignorer puisqu'elle nous
elle
nous pèse,
guide, elle nous pèse à tous.
Mais en même temps on la réclame la norme. On voudrait savoir comment ça marche, dans quel cadre on doit s'inscrire. D'ailleurs la question d'ailleurs le dit, c'est effectivement une question que j'entends souvent. Est-ce que je suis fait pour vivre à deux? Mais on est fait pour rien et on est fait pour tout et on est fait pour tout et son contraire. Donc la vraie question à se poser, les questions à se poser, mais elles sont abyssales et elles sont quelquefois angoissantes. C'est qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce que j'ai déjà vécu? Ce que disaient un petit peu les deux témoins, ils avaient vécu. Ils avaient bourlingué, comme vous disiez. Oui. Voilà, ils se sont éprouvés à l'amour, ils ont fait tomber quelques croyances, ils ont affiné leurs désirs, ils s'ajustent avec une réalité, avec un autre qu'ils ont rencontré à ce moment-là, mais ils ne s'inscrivent pas, me semble-t-il, ni l'un ni l'autre, dans l'idée définitive. Ils disent j'ai envie de ça, je peux ou je ne peux pas. Mais le être fait pour, non, c'est ça qu'il s'agit de faire tomber. Ce que nous propose le couple normé. Voilà, vous êtes fait pour ça et il faut tous s'inscrire dans ce cadre-là.
Isabelle Taube nous rejoint. Bonjour Isabelle Taube.
Bonjour Flavie.
Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine, partenaire de cette émission. Et on découvre justement dans votre article de psychologie une expression reprise par Odeline qui nous écrit « Ma vie serait tellement triste sans ma moitié. J'aime être avec lui, je ne me sens pas en sécurité lorsqu'il est loin de moi. » Et bien justement, l'expression « ma moitié », elle vient en fait du mythe de l'androgyne repris par Platon. Racontez-nous.
Alors, ce mythe de l'androgyne se retrouve dans un dialogue de Platon, qui s'appelle Le Banquet, où la question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'amour? Et Aristophane, homme de théâtre, va rappeler le mythe de l'androgyne, à savoir que autrefois, hommes et femmes ne formaient qu'un seul corps sphérique, doté des attributs féminins et masculins. Et ils eurent la très mauvaise idée un jour de défier les dieux, qui se vengèrent en les coupant en deux.
Donc ils avaient ils avaient quatre bras, quatre jambes, un sexe féminin, un sexe masculin. En fait, c'était vraiment le parfait mélange des deux.
Il ne manquait de rien. Et donc, dès lors, coupé en deux, ils pleuraient cherchant leur moitié. Et les dieux eurent pitié d'eux.
Ouais.
Et s'arrangèrent pour mettre les organes de la reproduction devant. Mmh. Et de façon à leur permettre de s'accoupler. Mmh. Alors, il y avait des unions possible désormais entre hommes et femmes, mais également entre deux hommes, mmh. à savoir que le couple peut être deux hommes.
Bien sûr, évidemment.
Mais pas deux femmes.
Bah oui, parce que là, oui, d'accord, j'entends. non, mais effectivement, parce que c'était le couple normatif, c'était soit homme-femme, soit homme-homme.
Oui, parce c'est que ça. Pour les Grecs, le couple d'abord,
c'était un couple d'hommes.
C'est entre deux hommes, hein, quand même beaucoup.
Voilà, c'était entre deux hommes. Vous vouliez réagir, Sophie Cadalen ?
Non, je repense à ce mythe de
l'androgyne.
De l'androgyne, et en fait, ils allaient très vite parce qu'ils roulaient comme une boule.
Oui.
Et que depuis, voilà, on est avec nos petites pattes, là, et paraît-il que c'est plus compliqué.
Bah évidemment. est-ce que c'est la Bible, selon vous, qui nous dit d'être à deux, Camille Saferis ? Est-ce que c'est la religion ? Parce qu'on demande à Isabelle Taubes qu'elle en pense.
Oui, c'est la religion, c'est les églises, effectivement, c'est les États, parce que la différence, vous voyez, on parlait du polyamour tout à l'heure, la différence, le polyamour, il est subversif parce qu'il change foncièrement, il menace la société telle qu'on la connaît.
Mais
c'est-à-dire
sûr.
Qu'on veut savoir qui, il y a aussi la question de l'héritage, c'est-à-dire qu'on veut savoir qui est le père de qui, pour que l'héritage se transmette. Donc, idéologiquement, c'est très anti-libéral, le polyamour, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a une idée très néolibertaire là-dedans, bien que ce soit très ancien.
Le polyamour, ça vient
c'est
d'où ?
Très ancien. Au départ, c'est Charles Fourier, donc 1808, l'inventeur du concept du phalanstère.
Le
fameux phalanstère, ça vient de Charles Fourier. Alors ça, c'est les origines, il y en a peut-être même encore avant, mais enfin ça, c'est une des origines connues du concept de polyamour, c'est-à-dire que c'est l'idée du partage. Comme on partage une bonne table, et c'est ce que nous disait Sam dans la première partie, c'est-à-dire qu'on a plus, il y a plus d'amour dans l'amour. C'est-à-dire quand on multiplie, quand on démultiplie les amours, on se dit que, et on se réjouit, effectivement, c'est la compersion, on se réjouit que la personne aimée ait d'autres amours, parce que ça la rend plus heureuse, donc ça fait plus d'amour. On se dit, il y en a encore en magasin. Quoi. On a plus d'amour que ce qu'on croyait. Et c'est pour le coup, c'est le héros de mon roman, L'homme d'une seule femme. C'est vraiment ça qu'il vit. C'est-à-dire que c'était inspiré d'une histoire vraie, et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il a énormément d'amoureuses. Il en a 8. Enfin non, il en a 12 au départ.
Oui, très fort, hein, votre pote.
Alors évidemment, il faut s'organiser, c'est ça qui est compliqué. Alors là, Sam, il en a pas encore 12, mais lui, Jules, le héros de mon roman, c'est vraiment ça. Et donc, il faut qu'il fasse des Google Maps avec des petits trucs de couleur, par bon distance. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur Doodle. Vous voyez, c'est très...
Ouais,
il faut une organisation. C'est un boulot à plein temps.
Il faut une vraie orga, exactement, avec des vies qui sont évidemment parallèles. On va revenir à notre sujet. Je vais vous demander, Isabelle Taubes, si effectivement c'est la Bible qui nous dicte, parce qu'on le retrouve dans votre article, hein, qu'il faut être à deux en couple. Et puis on va se demander tous ensemble si notre monogamie est véritablement culturelle. À tout de suite.
RTL.
Flavie Flamand. 14h30, 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Isabelle Taubes, est-ce que la Bible nous dit d'être à deux?
Ah ben la Bible nous dit d'être à deux, elle nous dit de croître, de nous multiplier, de ne faire qu'une seule chair.
Voilà, alors pas nous multiplier en polyamour, on est bien d'accord, hein, nous multiplier à deux, faire des bébés.
Mais absolument,
c'est
absolument.
Ça.
Mais il y a aussi que nos histoires d'amour, Hollywood, Bollywood, les romans d'amour, eux viennent de la tradition ésotérique de la Bible, de la Kabbale, puisque à chaque fois que Dieu envoie une âme dans un corps sur Terre, il lui prépare son âme sœur. Et donc, nous passons notre temps à nous chercher et on ne se trouve pas toujours.
Sophie Cadalen, justement, l'âme sœur, on en parlait il y a un instant en antenne, le bon, la bonne, chercher le bon ou la bonne personne, cette fameuse idée de moitié avec ce mythe de l'androgyne d'Isabelle Taubes, c'est pesant.
Ah bah c'est très pesant parce qu'il faut pas se rater.
Et puis on se rate toujours parce qu'on trouvera jamais.
On ne sera jamais dans une perfection. Cas, cette incertitude d'avoir trouvé le bon, la bonne empêche de vivre
pleinement,
tout bonnement.
Bien sûr.
C'est l'histoire qu'on vit avec ses bons, ses mauvais côtés. Mais non, ça met une pression de dingue. Comme s'il fallait pas se louper. C'est plus vivre sa vie, c'est plus vivre son désir, c'est plus s'ouvrir aux rencontres. C'est pas rater le casting, pas rater le coche.
Ouais. Et ça, effectivement,
Ça nous éloigne de l'amour en réalité.
Ouais.
Je trouve que ça nous éloigne énormément de l'amour. On met pas l'amour au centre du dispositif, on met la contrainte là. Ouais. Et puis on est aussi dans une démarche très consumériste quand on est on consomme l'autre, c'est-à-dire que il faut choisir le bon, la bonne, il faut être sûr de pas se tromper. Donc c'est comme quelque chose qu'on s'achète, qu'on s'approprie, et puis il faut surtout avoir le meilleur possible. Enfin vous voyez, ça induit un rapport de consommation qui effectivement va plutôt nous pourrir la vie qu'autre chose.
On a un message d'Amir. Le couple n'est pas la panacée, nous écrit Amir. Être seul, ne pas attendre l'autre pour être soi, voici la liberté. Alors effectivement, il y a le fait d'avoir un cœur qui peut s'ouvrir à différents amours, il y a le cœur exclusif, et puis il y a le cœur qui finalement est plutôt tranquille, peinard tout seul, Sophie Cadalen. Couple, on nous érige le couple comme étant la réussite, est-ce que c'est vraiment le cas?
Non, et puis je crois que Samir, enfin reprenons juste cette phrase de Samir, ne pas attendre l'autre pour être soi, mais ça devrait être valable pour tout le monde, qu'on soit en couple ou pas, qu'on soit avec 10 amoureux ou pas d'amoureux. Ne pas attendre l'autre pour être soi, c'est justement pas être dans cette demande, cette attente, cette responsabilité que l'on confie à l'autre de faire notre bonheur. C'est ça le mensonge, c'est ça qui rate forcément.
Et puis on peut être très heureux tout seul. Hein. Moi, comme je vous le disais pendant le disque, j'ai publié un livre qui s'appelle Le Kama Sutra toute seule.
Ah, on peut s'amuser tout seul aussi.
Avec toutes les positions de l'amour à un. On peut s'autosuffire.
Sophie Cadalen.
Oui, et puis quand même rajoutons, on peut aussi être très heureux avec l'autre, avec des autres, s'il y en a plusieurs, mais à condition encore une fois qu'on n'attend pas que l'autre nous comble, nous complète avec ce fameux mythe effectivement de l'androgyne. Non, si on s'assume soi, si on est au fait de ce que l'on veut soi, si on s'ouvre à ce que l'autre propose en sachant aussi faire le tri, sans attendre démesuré, avec l'autre c'est sympa aussi.
C'est toujours sympa aussi, je dirais Isabelle Taupe, de se dire que l'on peut compter sur l'autre. Avoir en fait un partenaire de vie, c'est quand même quelque chose de super fort.
Oui, ça permet de décliner des versions de soi-même.
C'est Sophie Cadalen, je trouve que c'est... savoir qu'il y a quelqu'un sur Terre qui pense à nous, c'est quand même quelque chose de vermeilleux, non?
Oui, là je vais élargir un peu. Là, en ces temps de confinement, on s'est aperçu que les autres, c'était quand même hyper important. C'était peut-être la seule valeur essentielle, là, pour le coup. On n'a pas beaucoup parlé d'essentiel, on n'a pas parlé des commerces, mais en tout cas, que être, effectivement, vivre, c'était aussi vivre avec les autres, c'était aussi vivre avec l'autre. On a commencé par une relation aux parents, à la mère en particulier, de laquelle on est né. Donc on est toujours dans cette ambivalence. On veut de l'autre, on veut se réaliser soi, on a tout intérêt à devenir autonome, mais je crois que la rencontre avec l'autre, elle est essentielle, elle est importante, elle est extrêmement enrichissante. Mais à quel prix? Est-ce que c'est pour faire couple forcément, d'un deux qui devient un? Là, je crois qu'il est mensonge, justement.
Il n'y a pas de solution parfaite ou ultime, on a le droit à tout, c'est ça qui est intéressant dans l'amour. On a le droit d'être seul par moment, on a le droit d'être en couple à deux, d'être polyamoureux. Il faut tout essayer. Il faut faire surtout en fonction de ce qu'on ressent et en fonction des rencontres.
Alors, on reçoit des messages aussi sur l'infidélité, évidemment, parce que sommes-nous faits pour être à deux? Parfois, effectivement, on est on peut aimer aussi plusieurs personnes, comme on l'a dit, ou on peut en aimer d'autres aussi dans la vie. Notre monogamie est-elle culturelle? On va en parler dans un instant. Isabelle Taupe, vous serez avec nous. À tout de suite.
On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL.
RTL.
Midi sur RTL.
RTL, toujours avec vous.
Jusqu'à 15h30.
Flavie Flamand sur RTL.
Bon, alors la vérité, Isabelle Taupe, est-ce que notre monogamie est culturelle?
Notre monogamie est strictement culturelle, en tout cas elle n'est absolument pas génétique. Il y a beaucoup plus d'oiseaux qui vivent en couple que de mammifères. D'ailleurs, la monogamie est une chose très curieuse, hein, puisqu'il y a des espèces de singes qui vivent en couple et d'autres non. Et donc, on peut raisonnablement penser que notre façon de vivre à deux et de nous raconter des histoires d'amour est purement culturel, hein. Sans compter qu'il y a des peuplades, des peuples, des ethnies qui sont polygames. Il y en a d'ailleurs plus qui sont polygames que de monogames. Mmh. Il y a notamment les Na de Chine, qui est un peuple, il y en a assez peu parce qu'ils sont très très persécutés par le régime, qui n'ont aucune idée de ce qu'est un couple, hein, ni de ce qu'est un père, ni de ce qu'est, c'est une société matrilinéaire, ils ne se posent absolument pas la question du couple, ni la question de la fidélité, hein. Ce sont les femmes qui choisissent leurs amoureux, elles peuvent en recevoir deux dans une nuit, c'est pas du tout un souci, hein.
Donc... faut le faire. Camille Saffris.
Non mais ce qui est intéressant, vous parliez des animaux. Moi j'ai vu qu'il y a un petit rongeur qui s'appelle le campagnol des prairies qui s'attache à son partenaire surtout grâce à son fort taux d'ocytocine dans le sang. Et quand on injecte cette hormone à son cousin, le campagnol des montagnes, qui est plus volage de nature, il devient soudain fidèle et il s'occupe de ses enfants. Donc vous voyez, c'est une question peut-être d'hormones, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y aurait de la chimie dans la fidélité, dans l'attachement et dans la monogamie.
Sophie Kédalen.
Oui, et puis je crois que c'est tout ça aussi parce que c'est et culturel et génétique aussi, hormonal, parce que c'est tellement plus pratique et qu'on est très feignant aussi. Parce qu'effectivement, vous le disiez, Camille, ne pas aimer qu'une personne, c'est s'organiser, c'est être aussi.
C'est du boulot.
Oui, et puis c'est être. Je crois que ça exige une certaine délicatesse. Il ne faut pas froisser personne. Ouais. Il faut distribuer du temps de manière assez cohérente. Il faut une certaine disponibilité.
Donc en fait, on serait des flemmards de l'amour ?
Ah, mais je suis convaincue qu'on est des flemmards de l'amour. Ah, mais bien sûr qu'on préfère se réfugier derrière c'est comme ça que ça marche, plutôt que se demander de quoi j'ai envie et comment je fais pour.
Il y a la conquête aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé à la conquête, c'est fait.
Hein. Mais est-ce que le but n'est pas
fatigant.
Moi, je trouve ça extraordinaire de reconquérir systématiquement.
Non, bien sûr, non, c'est pas ce que je dis. Mais oui, j'entends. C'est une partie du temps qu'on passe. C'est vrai qu'on se repose.
C'est la partie excitante aussi.
Ah bah évidemment, bien sûr.
Et la conquête, c'est une partie magnifique.
Et là, d'un point de vue strictement physique, ça agite le corps, ça fatigue.
Ouais.
Et quoi qu'on en dise, et là c'est un grand paradoxe de nous humains. On croit qu'on veut aimer, on veut être emporté par l'amour, mais on en a très peur et on en a la flemme aussi. Ça va déranger nos petites habitudes. Alors si on en aime plus et en plus, là les habitudes.
Et puis ça
vont
va bousculer les
incruster.
Et ça va bousculer les certitudes d'être amoureux.
Voilà,
enfin je veux dire, tomber en amour, c'est quelque part courir un danger, courir le danger de l'attachement, courir le danger d'être quitté, courir, c'est prendre un risque finalement l'amour.
Ah, c'est en tout cas vaciller de beaucoup beaucoup d'assurance et de certitude.
Ouais, ouais, c'est
l'aventure,
c'est le vertige.
Et c'est se dévoiler, c'est laisser l'autre aussi venir profondément en soi et inversement. Donc c'est un engagement, quoi.
Donc en fait, ce que vous nous dites quand même, Sophie Kédalen, c'est que l'idée du couple, elle est normative aujourd'hui, mais elle est basée sur la flemme.
Oui.
C'est que c'est plus confortable, voilà. Sur la culture, sur la culpabilité aussi.
Oui. Et puis c'est une façon aussi. Et là, c'est la culture, mais aussi. Nos demandes inconscientes et non avouées, d'ailleurs, de soi à soi-même, c'est plus contrôlé, c'est mieux gérer le couple. Mmh. Parce que aimer plusieurs, aimer de façon différente, aimer pas forcément pour tout le temps, c'est être libre.
Aimer.
Et la liberté, ça terrifie aussi. Ça nous terrifie, nous, et
Bien sûr.
Terrifie l'ensemble. Qu'est-ce qu'on
Après,
va devenir si les gens font ce qu'ils veulent.
Après, on peut aussi avoir des rencontres qui prennent toute la place, naturellement, qui sont des rencontres libres et qui font qu'on n'a pas spécialement envie d'une autre conquête parce qu'on est rempli de l'autre.
Absolument.
Et ça, c'est. Non, mais alors, ça, là, pour le coup, c'est génial.
Oui, mais là aussi, c'est possible. Mais c'est possible aussi si on pousse les « c'est comme ça que ça doit marcher ».
Bien sûr, oui. C'est-à-dire dans une certaine liberté.
C'est là que c'est dérangeant. En fait, c'est on pousse les règles.
En fait, tout est possible, mais on est obligé de rien. En fait, c'est ça.
Exactement.
Bon, on peut le dire comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Isabelle Taube ?
Écoutez, moi, j'en suis au couple cavalier-cheval. Hein.
C'est quoi, ça ?
C'est-à-dire que moi, mon autre, c'est un cheval. C'est lui que j'embrasse pour la Saint-Valentin. Mmh. Et effectivement, je trouve que la vie à deux, c'est plein de contraintes. C'est beaucoup plus simple que le polyamour. Mais tout cela est quand même très contraignant.
D'accord, mais attendez, excusez-moi, j'ai pas compris l'histoire du cavalier et du cheval. C'est quoi votre histoire,
vous
là, Isabelle?
Vous montez à cheval, Isabelle?
Non, mais c'est un jeu de mots. Hein. On parle du couple cavalier-cheval.
Oui. Mais je plaisante.
Comme d'un couple.
On a bien compris. Merci beaucoup, Isabelle Thaume. Allez, on va tous chevaucher. Merci beaucoup. On a bien chevauché le sujet de l'amour. En tout cas, aujourd'hui, on s'est bien interrogé avec, évidemment, la délicatesse qu'il faut, le respect aussi des conceptions des uns et des autres. Et c'était très intéressant. Isabelle Thaume, on retrouve votre article dans Psychologie Magazine avec le beau gosse de Vianney en couverture. Voilà.
Exactement.
Merci beaucoup. Salut Isabelle, à bientôt sur RTL.
Au revoir, à bientôt.
Il n'y a pas de mode d'emploi. Aimer sans mode d'emploi, c'est votre livre, Sophie Cadalen, qu'on retrouve aux éditions Erol. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à vous.
Aujourd'hui, à bientôt Sophie. Camille Saferis, vous nous en avez parlé. L'homme d'une seule femme, c'est votre dernier livre aux éditions Plume, à qui l'on souhaite beaucoup de succès. Et on vous retrouve également sur la chaîne LCP dans l'émission Ça vous regarde. Je
ne
sais pas pourquoi j'ai envie de le dire comme ça.
Mais
ça vous regarde.
Ça vous regarde. Voilà. Mais il y a des députés, donc il ne faut pas parler correctement.
En plus, ce qui est sympa, c'est que vous prenez l'apéro.
Oui, absolument.
Parce que vous avez vu qu'il y a une consommation d'alcool. Il y a eu un boom de l'alcool au mois de mars.
Alors,
ça
non,
fait
mais
partie
là,
des infos.
C'est avec des députés, donc on boit que des softs.
Voilà, bah vous faites très bien. Vous saluerez les députés pour nous, tiens. Voilà, et vous parlez de tout, sauf de politique, évidemment. Voilà, dans Ça vous regarde. Merci beaucoup à vous d'être venus. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, je sais pourquoi vous nous suivez, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Que faites-vous demain à 14h30? Bah, évidemment, on se retrouve sur RTL. Ça va être super intéressant parce qu'on va parler d'un sujet qui risque de vous faire réagir. Sommes-nous dans la société de la délation? En fait, aujourd'hui, est-ce qu'on balance plus vite que d'habitude? Est-ce que l'on dénonce trop vite et trop facilement? Ce sera demain. D'ici là, peace and love, surtout. Et à demain. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.
RTL. On est fait pour s'entendre.